Merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Et puis en attendant que les derniers retardataires nous rejoignent, je vais en profiter pour vous dire deux mots de bienvenue. Donc il s'agit d'une rencontre dans notre cadre de notre cycle Passage de l'étranger, où nous invitons à chaque fois un auteur en tournée et son traducteur. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'inviter Yoko Tawada et Bernard Banoun, et cette rencontre a une particularité, puisque Yoko Tawada écrit souvent en allemand, parfois en japonais, mais là, elle a écrit d'abord en japonais, c'est auto-traduite vers l'allemand, et c'est cette traduction de l'allemand qui a été traduite par Bernard Banoun vers le français. Et puis, pour conduire cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir Yann Nicole, à qui je vais donc laisser le guidon. Et moi, je vais juste être là pour faire de l'interprétariat de l'allemand vers le français. Et pour corser la chose, il se peut que, au cours de la rencontre, et c'est pas évident, Yoko Tawada ait envie de dire quelque chose en japonais. Auquel cas, je me tournerai vers des compétences qui, je le sais, sont dans la salle, pour bien vouloir nous aider à le traduire directement vers le français. Voilà, on va trianguler. Ça va être amusant. Bien, alors, je ne sais pas, il est 7h05, peut-être qu'aujourd'hui, puisque je vois que la salle est déjà pleine, on va exceptionnellement commencer en avance sur notre retard habituel. Donc, Yann, je te passe la parole.
En avance sur le retard habituel. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Merci à Yann et au Collège des traducteurs de me permettre d'animer cette rencontre. Je suis très heureux de rencontrer Yoko Tawada et Bernard Banoun. Bienvenue à tous les deux, merci beaucoup de votre présence. On va beaucoup parler donc de ce livre, Histoire de Knut, publié chez Verdier. Comme l'a dit Jörn, on va évoquer les questions de traduction inhérentes à ce drôle de parcours, écriture du livre en japonais, auto-traduction de Yoko Tawada dans la langue allemande, et puis le passage au français pour Bernard Banoun. Bernard, vous êtes à la fois enseignant, grand spécialiste de la littérature allemande, traducteur de nombreux auteurs en langue allemande, et donc traducteur de Yoko quand ses livres sont en allemand. Yoko, je vais donner un tout petit mot de présentation aussi, redire que vous êtes né en 1960 à Tokyo. Vous avez quitté votre pays en direction de l'Europe, je crois, avec en tête la ville de Moscou. Vous vous êtes arrêté en Allemagne, où vous avez commencé à vous installer, je crois, au début des années 80. Vous avez depuis publié un certain nombre de livres dans des genres divers, de la poésie, du théâtre, des romans. Il y a un certain nombre de livres qui sont traduits chez Verdier. On peut bien sûr parler de ce livre qui s'intitule « Narrateur sans âme » qui avait paru en 2001. On parlera peut-être aussi pendant cette conversation de « L'œil nu », mais également de « Train de nuit avec suspect » ou d'un livre qui s'appelle « Le voyage à Bordeaux ». On parlera peut-être un petit peu de ses livres.
Bernard, oui. Pour les titres allemands, tu veux revenir
voilà. Un petit problème de traduction sur les titres. Désolé, Jörn. Et puis donc, on va parler de cette histoire de Knut. Je vais en dire quelques mots très, très rapidement. C'est un livre qui est composé de trois parties dans lesquelles on est confronté à chaque fois à la parole d'un ours, un ours polaire, trois ours différents qui sont de la même famille. Trois générations différentes. Il y a d'abord, dans un premier temps, la grand-mère de Knut, qui est une grand-mère soviétique, exfiltrée en Allemagne de l'Ouest, puis au Canada, pour ne pas subir les foudres de la Sibérie. Une grand-mère écrivaine qui écrit son autobiographie. On reviendra sur cette question. Il y a ensuite la deuxième génération, l'ours Tosca, qui est donc la mère du dénommé Knut. C'est une ours polaire qui est une star du cirque, qui travaille en RDA, qui est à la fois une star du cirque et une mauvaise mère, si on peut le dire ainsi, puisqu'il s'avère qu'elle a abandonné cet ours polaire qui s'appelle Knut, qui est un ours qui a véritablement existé, qui a été une sorte de vedette du zoo de Berlin, un orphelin donc, et qui devient une sorte de symbole à la fois de la société du spectacle, de la préservation de l'environnement, tout un tas de sujets qui tournent autour de cet animal, de cet ours. La singularité, c'est bien sûr de leur avoir donné la parole, mais c'est surtout, et je crois que c'est par là que je vais commencer avec Yoko, un livre qui, à travers cette fable animalière, explore de nouveau des motifs qu'on a beaucoup lus sous la plume de Yoko Tawada, la question du déplacement, de l'exil, des migrations, de l'identité, de l'altérité, et au milieu de tout cela, bien sûr, la question de la langue et de la communication. Peut-être peut-on commencer, Yoko, avec une question vraiment très simple sur cet ours polaire, sur Knut, cette histoire réelle. Peut-être nous dire comment vous avez eu envie de faire de cette histoire-là une matière romanesque. Et peut-être aussi pourquoi vous avez eu envie de donner à ce Knut un passé et une généalogie.
Also es begann ja schon mit der Mutter Tosca und also Beziehung zwischen Tosca und Knut. Sie haben gesagt, dass die Mutter das Kind abgelehnt hat und nicht gehört.
Donc, pour commencer, il y avait l'histoire de cette relation entre Tosca et Knut, cette mère dont vous avez dit qu'elle avait rejeté son enfant.
Und ich fand das interessant, was die Menschen dazu gesagt haben.
Je trouvais intéressant ce que les contes disaient à ce propos.
Am Anfang stand in der Zeitung, Tosca deshalb Knut nicht akzeptiert hat, weil Tosca im Sozialismus in Zirkus gearbeitet hat und ihr Mutterinstinkt verloren hat.
Au début, ce qui était inscrit dans les journaux, c'était que si Tosca avait rejeté son enfant, c'est qu'elle avait travaillé au cirque dans les pays socialistes et que donc elle avait perdu son instinct maternel.
Also dem Sozialismus wurde etwas Unmenschliches unterstellt.
Donc, on présupposait que le socialisme avait quelque chose d'inhumain.
Und nach dem Tod von Knut, das konnte ich nicht mehr bearbeiten, weil ich ja schon das Buch zu Ende geschrieben hatte, aber als Knut starb, stand in der Zeitung, dass das ein schon angeborener Fehler war, was Knut im Gehirn hatte, deshalb ist er gestorben. Und die Mutter hat das gewusst, deshalb hat sie das Kind nicht gewusst. Also die Natur ist grausam und akzeptiert kein behindertes Kind, war die Theorie plötzlich.
Donc après la mort de Knut, qui a eu lieu, alors ça j'ai pas pu l'intégrer dans le roman parce que ça a eu lieu après que j'ai fini d'écrire le roman, donc il a été révélé que Knut avait un défaut au cerveau et que c'était cette raison-là qui avait fait qu'il avait été rejeté par sa mère et c'était une occasion de montrer la cruauté de la nature puisque dans ce contexte, voilà, la nature était donc la cause de ce qui a fait le rejet de la mère, du fils par la mère.
Und außerdem dieser Thomas Dörflein, der heißt in meinem Roman Matthias, wurde in der Zeitung auch als die männliche Mutter, als Held, ne, gelobt, weil, und das ist auch ein Ideal, das die Gesellschaft dann in gesehen hat, dass ein Mann auch die Mutter sein kann. Und also alles, wenn man über die Eisbären liest, dann kann man so viel darüber erfahren, was die Menschen heutzutage über die Menschen denken.
Donc la personnification a beaucoup été aussi prolongée dans les journaux à travers la personne de Thomas Dörflin qui apparaît sous le nom de Matthias dans le roman. Et qui a été vraiment présenté comme un héros suite à cette mort. Et il a été décrit comme une mère masculine et comme un idéal d'ours blanc, en tant que prouvant que le sentiment maternel pouvait être également incarné par les hommes. Voilà.
Und ich brauchte drei Generationen. Also ich brauchte die erste Generation. Die erste Generation, die Eisbärin, ist ein Fiktiv. Die gibt es in Wirklichkeit nicht. Aber sie beginnt zu schreiben. Sie ist die Autorenfigur. Und ohne sie geht es nicht weiter. Die Tosca ist Künstlerin, aber auf der Bühne. Und damit Knut auch selbstständig etwas denkt und eine aktive Figur wird, brauchte ich diese erste Generation.
J'avais besoin de trois générations. J'avais besoin également de la première génération qui est complètement fictive, de la grand-mère qui est la figure de l'auteur. Tosca est une artiste et pour faire exister Knut pleinement, j'avais besoin de remonter à cette génération antérieure avec la figure de l'auteur.
Peut-être réagir et ensuite je poserai la même question à Bernard sur l'idée qu'on va parler bien sûr de la personnification de finalement ces animaux qui parlent et qui donnent un regard sur les hommes. Est-ce que vous diriez que pour vous, c'est aussi une manière justement d'explorer des thèmes que j'ai évoqués sur le rapport à l'histoire, sur l'émancipation individuelle, sur l'exil, le déplacement, l'altérité, d'explorer ces motifs par un autre angle, par un autre biais, par une autre, dans une autre forme littéraire.
Ist die Personifikation eine Weise, das Motiv, also die verschiedenen Motive, die in ihrem Werk vorkommen, die Geschichte, Exil, Motiv des anderen und so weiter, ist es eine Weise, unter einem anderen Licht diese Motive zu erforschen.
Ja, ja, ja.
Oui, bitte Mikrofon.
Die Migrationsliteratur ist schon eine große Genre, eine Gattung. Viele schreiben und die Leser haben ja natürlich auch schon ein Stereotyp vom Migrant. Ne,
la littérature de l'émigration est un genre en soi et les lecteurs ont déjà en tête des stéréotypes du migrant.
Aber dadurch, dass das Eisbären sind, ist das dann noch einmal einen anderen Blick. Vielleicht habe ich als Chance gesehen, einen anderen Blick oui. auf dieses Thema zu werfen.
Et le fait qu'il s'agisse d'ours blanc m'est apparu comme une chance de renouveler le regard sur cette question.
Bernard, peut-être un mot sur l'inscription de ce livre dans l'œuvre que vous connaissez bien. Est-ce que vous diriez que ce livre-là, alors il a cette singularité dans la forme, mais est-ce que vous diriez que, selon vous, il a aussi des résonances très fortes avec des thématiques que l'on retrouve au fil du travail de Yoko? Peut-être un mot plus global sur l'inscription de ce livre dans l'œuvre en général.
Alors oui, je crois en effet que, ce qu'a dit Yoko Tawada, le fait qu'elle ait repris donc ce thème des animaux pour parler de la migration d'une manière là assez parodique. En fait, dans tous ces livres, il y a toujours la question du déplacement et la racine, c'est ce passage, donc cette espèce d'expérience de scène primitive où elle dit donc qu'elle a quitté le Japon en bateau à Yokohama. Il y a une tradition japonaise qui veut que quand quelqu'un part en bateau de Yokohama, les passagers tiennent un bout de un serpentin blanc et ceux qui sont sur la rive un autre, et que le moment où le serpentin blanc se coupe comme une sorte de cordon ombilical. Et donc ensuite elle est arrivée près de Vladivostok, elle a pris le transsibérien, elle est arrivée en France et elle s'est demandé juste en Europe, en Allemagne. À un moment elle se demande où est l'Europe, où est la frontière, et donc cette question de la migration totale est là. Et donc l'autre aspect, c'est le regard de l'étranger, c'est-à-dire en fait c'est vraiment fondamental chez elle, dès les premiers essais de narrateur sans âme, c'est-à-dire que l'étranger voit la langue, le pays d'une autre manière, et nous permet aussi de mettre à distance notre propre regard sur notre culture. Enfin, c'est surtout ça qui, quand elle, japonaise, voyant la culture allemande et écrivant en allemand ou européenne, nous fait voir le membre, justement, ces termes galvaudés d'identité, tout ça, à quel point c'est quelque chose de très, justement, figé, alors qu'il y a justement des brisures et des distances. Et puis, bien sûr, bon, il y a la question de la langue et puis de l'écriture, parce qu'en fait, elle, dans tous les livres, même ceux qui ne sont pas directement avec des personnages d'écrivains, la question de l'écriture et du passage d'une langue à l'autre est toujours, est souvent présente. Hein, dans l'œil nu, enfin, on pourra peut-être y revenir, je ne sais pas, mais la question justement des exilés, des migrants. Alors, d'une double manière, c'est-à-dire d'une manière, il y a un côté positif de la migration et le côté négatif. C'est-à-dire, côté positif, c'est-à-dire, voilà, la globalisation, on bouge, on voyage beaucoup. Et puis, le côté négatif, c'est l'expérience cruelle de l'exil, du déracinement, comme par exemple dans l'œil nu, où il y a cette jeune Vietnamienne qui se retrouve subitement à Paris sans parler français et qui vit des expériences assez cruelles aussi, enfin, assez dramatiques.
Yoko, peut-être sur la question de la voix, je vais vous proposer de lire le tout début du livre qui est l'entrée en matière par la grand-mère. Lorsqu'on est écrivain et qu'on crée un personnage, la voix est évidemment le point central. Il faut trouver la tonalité, la voix du personnage. Comment est-ce qu'on procède lorsque ce personnage est un ours polaire ? Est-ce que cette voix, vous l'avez, a été particulièrement difficile à trouver, la voix de ces...
Nicht unbedingt. Ich, bei mir
pas particulièrement.
Sind die Stimmen keine natürliche Stimme, meine in Erzählungen. Das sind
chez moi, les voix ne sont pas des voix naturelles dans mes récits.
Und ich habe mich davon orientiert, also Anfang des Textes, wie ein Baby-Eisbär die Welt wahrnehmen würde, mit allen Organen, die er hat.
Je me suis fié à la façon dont un bébé pourrait prendre connaissance du monde avec tous ses organes. Je
was
me suis appuyé seine, sur ça.
Was seine Augen sehen könnten, was seine Ohren hören könnten, was die Zunge macht und das ist eher Antasten der Welt und nicht sprechen über etwas mit einer Persönlichkeit.
Ce que ses yeux peuvent percevoir, ce que ses oreilles peuvent percevoir, sa langue. Il s'agit plutôt d'une approche tactile du monde plutôt que d'une description.
Also für mich ist die Sprache selbst wie Körper und es ist nicht unbedingt so, dass wir als Mensch die Sprache manipulieren und konstruieren, um etwas auszudrücken, sondern wir haben manchmal nicht so viel Kontrolle, sondern die Wörter kommen aus unserem Mund, aber ganz unbeholfen manchmal. Ne? Und dass diese Blöcke von Wörtern und die Sätze, die bilden die eigenen Körper. Die sind nicht Stimmen, die sind Körper.
Pour moi, la langue est corps. Et les mots qui sortent dans la parole d'un être humain sont pas des mots qui sont des mots qui servent à manipuler, qui sont d'une construction, mais il s'agit beaucoup plus de mots qui trouvent leur chemin de sortie d'une façon irrésistible, enfin voilà, c'est qu'on sans maîtrise, et ce sont comme des décors, les mots sont décors.
Peut-être juste une question avant la lecture. Jörn et Bernard évoquaient le fait que vous écriviez parfois en japonais, parfois en allemand. Dans un cas comme celui-ci, le choix du japonais est véritablement un choix. C'est quelque chose qui arrive de manière instinctive. Comment est-ce que cette décision se prend pour vous ?
Also die Erzähler sind entweder Erzähler erzählen entweder von früher oder von der Ferne und das sind die Geschichten in Europa und ich wollte aus der Ferne das erzählen.
Donc les narrateurs, merci, racontent en général soit des histoires du passé, soit depuis une distance. Et là, je voulais évidemment prendre la distance. Et donc, d'où le choix du japonais. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais voilà.
Parce que l'action est en Europe.
L'action est en Europe. Donc, voilà. Donc, le choix du japonais ressort de la distance géographique qui permet d'avoir la distance nécessaire.
Je vous propose peut-être de lire le tout début du livre. Bernard, vous voulez en dire un mot avant la lecture de Yoko, peut-être ?
Oui, alors, bah, je peux... Oui, oui. Donc le début du livre est le début de la première partie où la narratrice, c'est donc la grand-mère qui se remémore ses premières impressions et notamment donc, comme elle est artiste de cirque, elle se remémore le moment où on lui apprend justement à se tenir sur deux pattes et donc en lui mettant des choses brûlantes sous les pattes, voilà, sous les pattes avant.
Je vous en prie, Yoko.
Yoko お尻を天に向けてお腹を中側に包み込んで三日月型になった。まだ小さかったので四つん這いになって肛門を天に向かって無防備に突き出していても襲われる危険なんて感じなかった。それどころか宇宙が全部自分の肛門の中に吸い込まれていくような気がした。私は腸の内部に宇宙を感じた。赤ん坊に毛が生えたようなやつが宇宙を引き合いに出すなんてと笑われるかもしれない。私は実際毛の生えた赤ん坊以外の何者でもなかった。毛が生えていたから真っ裸でもツルツルしていたわけではなくってふさふさしていた。物をつかむ力、つかまる力は発達していたが、歩くのは不得意で、歩いているというよりよろけた勢いで偶然前に進んでいるようなものだった。視界にはぼんやり霧がかかり、音は洞窟の中で聞くようにポワポワ反響し、行きたいという思いは手の先と舌の先に集中していた。
Merci beaucoup, Yoko. Peut-être on peut tout de suite poser une question hein, sur ces liens entre japonais et allemand. Peut-être commencer avec vous, Yoko, sur votre volonté précisément d'être celle qui allait traduire ce texte du japonais à l'allemand. Pourquoi cette fois-ci, c'était important pour vous de le faire ainsi ?
Warum war es diesmal wichtig für Sie, den Text selber aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen ?
Ja, das war das erste Mal und ich wollte das nicht, aber aus meinem japanischen Buch das sind Eisbären, die wollten das unbedingt raus aus der japanischen Sprache in die deutsche. Weil sie vielleicht deutsche Bären waren. Ne?
C'était la première fois que ça m'est arrivé et moi, normal, j'étais parti pour une autre solution, je ne voulais pas ça, mais bon, il se trouve que c'était des ours blancs et qu'ils étaient en plus des ours blancs avec une. Allemand, enfin qui avait une expérience allemande, et c'est eux qui l'ont voulu, donc moi j'ai pas eu le choix. Voilà.
Donc c'est les ours qui vous ont obligé, en fait, c'est ça. Avant de m'adresser à Bernard, peut-être nous dire ce qui constitue la plus grande distance entre les deux langues. Le néophyte que je suis imagine que la question des idéogrammes et de l'alphabet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus grandes difficultés ou les plus grandes distances entre les deux langues, ou ce qui apparaît comme étant des spécificités de l'une et de l'autre dans l'approche littéraire.
Das ist jetzt eine allgemeine Frage über die Übersetzung zwischen dem Japanischen und dem Deutschen. Also, als Laie hat sie sich vorgestellt, vielleicht die Schwierigkeit von Programmen auf ein Alphabet zu übersetzen, aber es spricht an viele andere Fragen. Was ist das Schwierigste?
Ah, das ist schwierig zu erklären. Es gibt viele, viele Schwierigkeiten.
Il y a beaucoup de difficultés.
Zum Beispiel im Japanischen mischt man die Tempus, ja, das Vergangenheits- und Gegenwartsform.
Les temps entre le passé et le présent sont très mélangés en japonais.
Das ist eine subjektive Zeit. Wenn das spannend wird, wird das Gegenwart, auch wenn das in der Vergangenheit passiert ist.
Le temps est subjectif. Dès lors que on est dans une tension, dans un suspense, on utilise le présent, qu'on soit dans le présent ou le passé. C'est plutôt un rapport subjectif au temps.
Aber in der deutschen Fassung habe ich zumindest in einem Absatz, dass das nicht zu oft wechselt.
Et en allemand, je dois veiller à ce que, au moins dans un paragraphe, on ne change pas trop souvent de temps.
Oder man, am Anfang sollte der Leser nicht wissen, ob das ein Bär ist oder ein Mensch.
Et au début, il fallait pas que le lecteur sache s'il s'agit d'un être humain ou d'un ours.
Aber in der deutschen Sprache gibt es Wörter für die Menschen, die Hand, und für das Tier, die Pfote. Und ich wusste nicht, was ich da schreiben soll.
Et dans la langue allemande, il existe deux termes différents, comme dans la langue française d'ailleurs, entre la main et la patte. Et donc, j'étais obligé de choisir.
Und ja, Ideogramme ins Alphabet zu übersetzen, das ist nicht unbedingt das Problem. Aber wenn auf Japanisch ist es eher vielleicht spielt das mehr eine Rolle, wie das aussieht, also visuelle Schönheit des Textes. Während wenn ich auf Deutsch schreibe, dann ist es dann wird es wichtiger, wie es klingt, wenn man den Text laut vorliest.
Donc passer des idéogrammes à l'alphabet n'est pas en soi une difficulté, mais il y a une prééminence de, enfin il y a une grande importance quand on écrit en japonais de l'aspect visuel, comment, à quoi ça ressemble sur la page, alors que quand on passe dans la langue allemande, il y a évidemment une importance prépondérante de comment ça sonne. Voilà.
Bernard, sur le sujet, je vois que vous avez pris quelques petites notes, à la fois peut-être sur cette double appartenance de Yoko, et puis peut-être dans la foulée de ce que ça a comme conséquence pour vous sur la traduction française.
Double appartenance, disons pour moi, je ne parle pas japonais, j'ai tout petit peu commencé et j'ai arrêté et je ne l'apprendrai sans doute pas, enfin j'aimerais bien, mais en tout cas pas de manière à le traduire et sans doute pas non plus à le lire, peut-être à le parler un tout petit peu. Et en fait, donc les problèmes, je voulais revenir d'abord sur la question de, c'est justement cette question des temps, puisqu'en effet, souvent, antériorité, postériorité, c'est pas précisé en japonais, parfois non plus, on ne sait pas qui parle. Et en fait, c'est Yoko Tawada, ça joue un rôle aussi dans les textes allemands. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des traces de japonais dans l'allemand. Enfin, c'est moi qui les fantasme comme traces de japonais. Hein. C'est-à-dire que il y a des moments de grande incertitude et le fait que souvent dans les textes, il y a des moments où on ne sait pas exactement qui parle parce que le narrateur change. De même que dans la deuxième partie dont on passera, on ne sait pas en fait si c'est l'ours ou l'humain qui parle. Il y a toujours ces glissements d'un personnage d'un narrateur vers un autre. Et je pense que c'est une manière d'importer des caractéristiques de langue japonaise dans un livre écrit dans une langue européenne. Et voilà. Et alors, en fait, pour la traduction, disons que le fait que le livre ait été écrit en allemand, en japonais, fait que, en fait, cette traduction-là, c'est de troisième main, puisque en général, la traduction, c'est de seconde main, et là, c'est de troisième main. Et au début, ça m'a beaucoup gêné, c'est-à-dire que au début, enfin le fait que Yoko Tawada ait traduit son livre et ait dit qu'elle veuille que son livre soit traduit en français, enfin en Europe, à partir de l'allemand et pas du japonais, m'a gêné parce que j'ai pensé que c'était une langue qui allait faire le relais. Comme par exemple Mishima qui a fait traduire ses livres en anglais et qui a demandé qu'on traduise ses livres à partir de l'anglais. Donc comme si l'anglais servait de langue, il avait contrôlé la traduction anglaise, donc maintenant l'anglais allait sur le plan sémantique pouvoir donner comme ça l'accès à tous. Alors qu'à mon avis, traduire d'une langue c'est différent, même si la traduction en anglais était bonne, ce n'est pas ça qui fait que la traduction dans d'autres langues serait encore bonne. Donc au début j'étais assez gêné par ça. Par cette idée-là même, de savoir que j'allais avoir quelque chose que j'ignorais totalement en amont. Par ailleurs, la langue de Yoko Tawada est un peu différente dans ce livre, et en tout cas, c'est aussi ce que m'ont dit des lecteurs japonais, c'est-à-dire que la langue en japonais, m'a-t-on dit, est plus simple, moins virtuose. De même qu'en allemand, il y a moins de jeux de mots, il y a moins de c'est moins centré sur la langue que dans d'autres textes. Et au début, j'avais un peu de mal avec ça parce que c'était différent des autres textes de Yoko Tawada. Et en fait, c'est une manière de trouver une langue pour les ours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si un humain voulait faire parler donc des animaux. Alors évidemment, ça, si on réfléchit, il y en a beaucoup. Il y a les Philip Wallace Disney, enfin bon, les animaux qui parlent, il y en a partout. Mais là, il y avait une idée d'être presque impersonnel. Et en fait, cette impersonnalité, elle correspond justement aussi à une position de narrateur japonais. Donc j'ai été gêné par ça jusqu'à ce que je commence à comprendre justement qu'il fallait trouver cette incertitude, ce caractère un peu monotone, monocorde, comme si c'était impersonnel. Et en fait, ça m'a réconcilié avec le fait qu'il y ait le japonais derrière, parce que je me suis dit que, de toute façon, quand on traduit, on a toujours l'impression qu'on laisse quelque chose je dirais pas qui est perdu, mais quelque chose en amont qui ne va pas passer de la langue d'arrivée. Quand c'est une double traduction, on se dit, bah, voilà, c'est encore pire. Et en fait, je me suis dit, mais c'est comme si moi-même, il y avait en amont la langue des animaux que je ne connais pas. Donc il y a la langue des animaux qu'elle a mise en japonais, que je mets en allemand et qui met en français. Et en fait, c'est voilà, un processus de traduction infini, mais qui finalement découle de cette espèce de vision de ce que peut être un animal qui parle ou qui écrit. Puisqu'elles, les deux premières, en tout cas, elles sont des écrivains. Donc, voilà.
Peut-être d'ailleurs, on peut poser cette question à Yoko. Je vais peut-être lire un ou deux extraits aussi qui permettent de comprendre. Lorsqu'elle commence à écrire son autobiographie, le personnage de la grand-mère, elle a un certain nombre de discussions, notamment avec le phoque. Je vais lire ceci.
Son éditeur.
Le phoque survola mon manuscrit et déclara « Ce serait mieux si tu ne critiquais pas la politique dans ton texte. Et puis ta philosophie aussi me barbe. Tes lecteurs préfèrent apprendre comment tu as pu maîtriser le grand art de la piste sans perdre ce qu'il y a de sauvage en toi et ce que tu as ressenti. L'important, ce sont tes expériences, pas tes idées. » Il y a tout un tas de réflexions comme ça sur l'écriture. Peut-être Yoko nous dire... Voilà pourquoi vous avez fait de ces personnages aussi des personnages écrivants. Est-ce que c'était un moyen pour vous de vous interroger aussi sur votre travail, sur votre propre position de romancière ?
Ja, ich denke, also eine Sache ist ja auch, dass es gibt ja erste Person und dritte Person in der europäischen Sprache, ne? Ich oui. Und dann er non,
alors
oder
dans,
sie.
Dans les langues européennes, bien sûr, on a la première personne ou la troisième personne.
Und das ist grammatikalisch genau genommen, im Japanischen gibt es nicht so solche Personalpronomen.
À proprement parler, il n'y a pas les mêmes pronoms personnels dans la langue japonaise. Enfin, ils ne sont pas employés de la même façon.
Man kann natürlich auch ich sagen, ja klar.
On peut bien sûr dire je.
Man kann auch er sagen.
On peut dire il.
Aber es ist grundsätzlich nicht anders. Das Verb ist auch nicht anders und der Gedanke, weil man kann von sich aus in der dritten Person sprechen im Japanischen. Zum Beispiel der Lehrer kann zu den Schülern sagen, der Lehrer denkt so und so. Und das ist in Deutsch würde ich denken, ne? So würde man sagen.
Bon, même s'il y a cette possibilité d'exprimer la première ou la troisième personne, le verbe ne change pas et il y a également d'autres possibilités. Par exemple, un professeur peut s'adresser à ses élèves en disant « le professeur pense que ». Voilà, donc c'est une modalité qui existe en japonais.
Und in der Autobiographie erwartet man, dass man in der Ich über Ich spricht.
Et dans l'autobiographie, on s'attend bien sûr à ce qu'on adopte la forme du jeu.
Aber das ist grundsätzlich nicht anders als ein Roman, ein fiktiver Roman mit in der dritten Person.
Mais dans le fond, ce n'est pas si différent d'une fiction à la troisième personne.
Und viele Autobiographie der Migranten, also Migranten Autobiographie, liest man gerne, weil man denkt, das sind die wahre Geschichten.
Et il y a beaucoup d'autobiographies de migrants que l'on lit volontiers parce qu'on se dit « Ah, voilà, là, c'est la vraie histoire. »
Aber in Wirklichkeit ist das immer ein Zwischenspiel zwischen dem Verlag, dem Publikum, also Leser und dem Schreibenden.
Mais dans le fond, il s'agit toujours d'une interaction entre l'éditeur, l'auteur et le lecteur.
Und nur als ein gemeinsames Produkt entsteht so etwas.
Et finalement... Le résultat final ne naît que de cette collaboration.
Und so hab ich das ein bisschen zum Teil parodistisch das dargestellt, aber nur auf diese Weise, anders gesagt, konnte die erste Bärin auch ihre Geschichte schreiben. Also man kann nicht sagen, das war alles nur was, weil der Verlag das so gewollt hat, aber man kann auch nicht sagen, das ist ihre wahre Geschichte.
Et j'ai voulu Oui, j'ai voulu faire figurer ça dans le roman d'une façon un peu parodique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce que l'ours, la grand-mère raconte, l'ours écrivaine raconte d'elle-même, c'est la stricte vérité. Et on ne peut pas non plus dire que l'éditeur a tout le contrôle sur l'histoire. Voilà.
Est-ce que vous voulez peut-être lire un extrait, Bernard, et puis ensuite on arrivera peut-être à parler un peu plus en détail de, oui, à la fois de Tosca et de Knut. Peut-être lire un dernier extrait autour, oui, de ce personnage de la grand-mère.
Oui, donc un petit extrait un peu plus long autour de la personnage de la grand-mère. Donc quand on a dit qu'elle était, c'est un ours polaire, donc qui a été en artiste de cirque en Russie et qui émigre en Allemagne avant d'immigrer au Canada. Et donc elle émigre en Allemagne parce qu'elle est à un moment en URSS. Elle a commencé à publier son autobiographie et quelqu'un veut. Enfin, elle reçoit une lettre disant qu'elle doit aller planter des oranges en Sibérie. Et elle se dit, bon, bah, je vais y aller jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, mais enfin, des auteurs qu'on envoie en Sibérie, c'est peut-être pas, pas anodin, parce que c'est un ours, hein, donc voilà, elle ne sait pas tout ce qui peut se passer en Sibérie. Donc finalement, on l'exfiltre en la faisant partir donc, pour Berlin-Ouest, où au début, elle se sent assez bien parce qu'elle elle mange beaucoup de saumon fumé. Et en fait, on va essayer quand même de se débarrasser d'elle, et voilà ce qui se passe. Donc. Et Wolfgang, c'est le jeune Allemand qu'il a accueilli à Berlin-Ouest. Et Ivan, c'est son éditeur russe, donc qui intervient ici. Wolfgang alla nous chercher des glaces dans deux gobelets en carton ridiculement petits. Ma langue lapa d'un coup toute la glace à la vanille. Puis, cette même langue exprima mon plus profond désir. Je veux immigrer au Canada. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je veux immigrer au Canada. Un bout de glace tomba de la cuillère de Wolfgang. Pourquoi précisément là où il fait froid ? Mais tu n'as toujours pas compris que quand toi, tu trouves la température agréable, moi, j'ai bien trop chaud. Les yeux de Wolfgang s'emplirent de larmes, ce qui lui donna l'air d'un chien. En général, les chiens cherchent comme des fous ce que la meute a perdu. Ils poussent des hurlements mélancoliques, non par amour, mais par angoisse existentielle, car ils croient ne pouvoir survivre qu'en groupe. Moi, je ne suis pas une égoïste, mais je préfère être seul, car c'est plus rationnel et plus pratique pour la recherche de nourriture. Je pris congé laconiquement de Wolfgang en me réjouissant d'avance de pouvoir travailler sans être dérangé. Je voulais retrouver au plus vite le souvenir du gramophone de mon enfance. Mais ce qui me vint à l'esprit à la fin de ma tentative, ce fut un autre gramophone, celui que j'avais vu dans le grand magasin. Écrire une autobiographie, cela signifiait deviner ou inventer tout ce qu'on ne savait plus. Je croyais avoir suffisamment décrit le personnage d'Ivan, mon éditeur. En réalité, je ne me souvenais plus du tout de lui. Ou plutôt, je me souviens de lui nettement, maintenant, et c'est cela seulement est possible, parce que Ivan n'est rien d'autre que ma création. Nous ne fûmes pas peu surpris, une semaine après l'arrivée des neuf... attendez, excusez-moi, c'est pas le bon passage. Voilà. Les journées tropicales à Berlin se succédaient. Dans les cellules brûlantes du cerveau, les lambeaux de pensée refusaient de se réunir. Dans un pays de neige et de glace, j'aurais pu me refroidir la tête pour me sentir fraîche. Je veux émigrer au Canada. Je m'étais déjà enfui d'est en ouest. Mais comment fait-on pour fuir d'ouest en ouest ? Un jour, la bonne réponse à cette question me tomba dessus. Lors d'une promenade, je découvris un paysage recouvert de neige et de glace. Il était enfermé dans une affiche. D'autres affiches étaient placardées sur la façade et je compris que j'étais devant un cinéma. J'allais au cinéma, je vis un film canadien qui me montra la vie au pôle Nord. En sortant du cinéma, en rentrant, je pris le raccourci par une ruelle obscure derrière la gare. Cinq jeunes traînaient là. L'un d'eux barbouillait avec une bombe des signes mystérieux sur le mur. Curieuse, je m'arrêtai et les observai sans faire de commentaires. Le plus petit de ces jeunes, remarquant ma présence, me chassa. « Va-t'en !» Je ne supporte pas que quelqu'un tente de m'exclure d'un groupe. M'obstinant, je ne reculais pas d'un pas. Les quatre autres jeunes me remarquèrent à leur tour. L'un d'eux me demanda d'où je venais. De Moscou. Aussitôt, les cinq garçons se jetèrent sur moi comme si le mot Moscou avait été un code signifiant à l'attaque. Mon intention n'était pas de blesser ces maigres garçons au crâne doux et nu. Mais il fallait bien que je me défende. Mes mains pattes ouvertes, je décochai donc quelques coups délicats. Le premier tomba sur les derrières et, incapable de se relever, me regarda d'un air surpris. Le deuxième fit un vol plané, se remit sur ses jambes, serra les mâchoires et essaya de me cogner, mais repartit en l'air avec la légèreté d'une plume. Le troisième sortit un couteau de sa veste et voulut me poignarder. Il s'approchait, j'attendais. À la dernière seconde, je m'écartais, me retournais et le poussais d'un coup dans le dos. Il s'écrasa sur une voiture garée là, s'énerva, se précipita sur moi, les lèvres éclatées. Je l'évitai une nouvelle fois et lui donnai une chiquenaude par derrière. Il tomba par terre, se releva illico pour déguerpir. Ses copains avaient depuis longtemps débarrassé le flancher. L'homo sapiens se déplace avec lourdeur, comme si son corps avait trop de chair superflue, alors qu'il est d'une maigreur pitoyable. Il cligne trop souvent des yeux, surtout dans les moments décisifs où il faudrait qu'il voie tout. Quand rien ne se passe, il imagine quelque chose qui l'oblige à bouger nerveusement, mais en cas de réel danger, il agit trop lentement. L'homo sapiens n'est pas fait pour le combat. Il ferait mieux d'apprendre la sagesse et l'art de la fuite, comme les lièvres ou les chevreuils. Mais il aime le combat et la guerre. Qui a donc pu créer cette créature stupide ? Certains humains prétendent être à l'image de Dieu. Ce serait faire offense à Dieu. Au nord de notre globe terrestre, de petits peuples se souviennent que Dieu ressemblait à un ours. Un blouson en cuir noir de bonne qualité était resté par terre. Je l'emportais chez moi pour en faire cadeau à Wolfgang. Je m'arrête peut-être. Ouais, la suite de ça. Voilà. Il vint me voir le lendemain à point nommé. J'ai trouvé un blouson en cuir, et je lui dis, j'ai trouvé un blouson en cuir dans la rue. Il est trop petit pour moi. Tu veux l'essayer ? Wolfgang lança d'abord un coup d'œil indifférent sur le blouson, puis son visage se figea. D'où sors-tu ce blouson ? Tu ne vois pas la croix gammée ? Effectivement, il y avait une espèce de croix peinte sur le blouson. Je pris peur, pourvu que je n'ai pas blessé des gens de la Croix-Rouge. Je m'empressai de chercher une justification. Ce sont ces types qui m'ont agressé en premier, c'était légitime défense. Une vapeur de colère se répandit autour du visage de Wolfgang. Il devait s'agir d'un malentendu que je voulus dissiper au plus vite. Vraiment, ils étaient à peine blessés. S'il le faut, j'irai les trouver, je m'excuserai. Ils m'ont mal comprise. J'ai dit Moscou et le groupe entier m'a agressé. C'est un code, Moscou ? Wolfgang s'assit en poussant un soupir et m'expliqua que d'après les statistiques, les néo-nazis s'attaquaient le plus fréquemment à des Russes d'ascendance allemande qui ont une couleur aussi claire que moi, et non à des individus basanés ou aux cheveux noirs ottomans. Les gens qui sont plutôt d'extrême droite ont peur des gens qui leur ressemblent tout en étant différents. « Je ne leur ressemble pas, protestai-je. Peut-être pas, mais un nom de lieu comme Moscou déclenche beaucoup d'émotions et souvent il attise la rage. » Wolfgang appela le président de l'association et informa ensuite la police. On me montra un article de journal où était écrit qu'un auteur en exil avait été agressé par des extrémistes de droite. Comme je n'avais pas été blessé du tout, on n'avait pas pu écrire que la victime se trouvait à l'hôpital dans un état grave, ce qui aurait paru plus convaincant. Je n'avais pas eu la moindre égratignure et pourtant, il ne restait pas moins que moi, être féminin, avait été agressé par 5 hommes et que cela fut une raison suffisante pour que Wolfgang et ses amis demandent à l'ambassade du Canada que le Canada m'accueille comme réfugié politique, puisqu'il était trop dangereux pour moi de rester en République fédérale d'Allemagne. Je suppose que l'association voulait se débarrasser de moi parce que je mangeais trop de saumon et que je n'écrivais pas assez. « Nous n'avons plus qu'à attendre la réponse de l'ambassade du Canada », dit Wolfgang, avec la voix d'une rose qui aurait beaucoup d'épines.
Merci beaucoup Bernard. Ça donne vision à la fois de l'humour de l'œuvre de Yoko et puis de cette ligne de crête permanente entre effectivement le regard très incisif sur la société, sur l'humain et quelque chose qui est à l'intérieur. Il y a cette dimension très engagée finalement, vous diriez cela ?
Alors, engagé, je ne dirais pas parce que, enfin, là, c'est une question peut-être à laquelle Yoko répondrait mieux, mais en tout cas, elle serait la seule habilité à répondre, parce que, en tout cas, il est sûr que dans son œuvre depuis toujours, il y a une grande dimension géopolitique, d'une part, c'est-à-dire qu'elle est toujours, elle écrit toujours, en fait, après la fin de la guerre froide, plusieurs livres, par exemple, L'œil nu, la jeune fille vietnamienne arrive en Allemagne de l'Est en 88, et ensuite, elle se retrouve après la chute du mur en Europe occidentale. Et en fait, elle interroge beaucoup justement la mondialisation dans son histoire, enfin dans les conflits historiques dans leur histoire. Et en fait, engagé n'irait peut-être pas, parce qu'à part à l'époque de Fukushima où Yoko Tawada a écrit des quelques articles qui étaient vraiment sur ce que pouvait signifier cet accident atomique, eh bien, elle ne prend pas parti directement, mais disons, je dirais que Yokota Wada est quelqu'un de très très libre dans son esprit, comme on voit, c'est-à-dire qu'en fait enfin, moi je trouve toujours que son regard décalé fait que quelque chose d'inattendu arrive, et donc ça oblige toujours à déjouer les conventions, à changer les habitudes de pensée. Et de ce point de vue là alors si c'est pas engagé, en tout cas c'est très libérateur comme écriture, parce que ça fait voir les choses sous un autre angle, ça remet en question des idées reçues, des conventions, en fait ça déconstruit toujours des questions voilà, dont on nous rebat les oreilles, d'identité et de voilà, de tout ça, de migration vue comme étant le nec plus ultra, de globalisation, etc. Voilà.
Est-ce que Yoko veut réagir sur cette question-là de l'inscription aussi de ces personnages dans des moments historiques très forts et dans des moments où l'histoire percute finalement les destins individuels?
Das ist eine schwierige Frage, weil
Question difficile.
Ich denke natürlich. Qualität, während Matthias und Knut oder Thomas und Knut, das ist ein Scheitern, weil sie mussten getrennt werden, weil Knut zu groß wurde, so groß auch nicht, aber 50 Kilo. Und dann waren beide traurig und dann sind beide gestorben.
Bon, certes, je me suis servi deux fois de relations entre l'homme et l'ours, mais elles sont pourtant ces deux relations tout à fait distinctes. D'un côté, la relation entre Barbara et Tosca, il y a quelque chose qui les réunit, c'est qu'elles ont un programme du baiser de la mort. Ce qu'on peut constater, c'est que ce programme perdure avant et après la chute du mur, qu'il y a une continuité qui caractérise leur relation, et que ça, c'est quelque chose qui est relativement rare, qui est une continuité entre avant et après la chute du mur. Et la relation de Knut et de Matthias est quand même très différente, parce qu'elle est marquée par un échec. On a dû les séparer, et elle se termine par la mort de... Voilà, si c'est dit, donc je le traduis, elle se termine par la mort des deux protagonistes. Donc c'est en cela une relation quand même très différente, même si on peut les réunir par le fait que ce sont une relation homme-ours.
Und ich fand das auch interessant, dass Barbara eine Frau war. Normalerweise im Zirkus ist es ein Mann, der mit Raubtier arbeitet. Barbara war Frau. Und dann bei Knut umgekehrt, das ist die Mutter, Knuts Mutter war ein Mann.
Moi, je trouvais intéressant que Barbara soit une femme. D'ordinaire, les dompteurs dans le monde du cirque sont des dompteurs de fauves, sont des hommes. Et à l'inverse, Knut est. Matthias est la mère de Knut. Donc, voilà, une inversion des stéréotypes.
Est-ce que vous voulez peut-être nous reparler aussi de cette partie sur Barbara et Tosca et de la manière dont vous l'avez gérée, vous, en tant que traducteur, justement, sur ces langues, sur ces monologues, sur cet entremêlement aussi des paroles des différents personnages?
Oui, alors en fait, donc dans les films de Yukio Tawada, il y a souvent des hésitations sur le narrateur. Ça correspond à ce que disait Yukio Tawada tout à l'heure du fait qu'il n'ait pas les pronoms personnels en japonais. Et par exemple, dans son livre justement traduit du japonais qui s'appelle Train de nuit avec suspect, en fait, le livre est à deuxième personne, c'est le personnage qui se parle à soi-même. Et voilà. Bon. Et donc, et à la fin, il y a un retournement où on voit qui est le véritable personnage. Et dans ce livre-là, donc il y a aussi cette question du jeu. Alors, je réponds de manière un peu détournée, hein, puisque dans chaque partie, donc c'est la grand-mère, elle écrit son autobiographie. Elle est, voilà, c'est le grand, enfin, un écrivain en quelque sorte célèbre à un moment. Le troisième, le petit Knut, en fait, lui, c'est le plus naïf, peut-être le moins humanisé au début, parce qu'il est élevé par un humain dès le début, mais il ne connaît pas les humains, et il ne sait pas non plus dire « je ». Il découvre la manière de parler de soi à première personne plus tard. Et dans la deuxième partie, donc, c'est la partie entre Tosca, qui est donc l'ours, et Barbara, qui est... Barbara. Barbara, qui est la dompteuse, et... En fait, ça reste assez complexe parce que on peut croire que la dompteuse écrit son autobiographie et qu'elle écrit du même coup à propos de son ours, et même qu'elle écrit l'autobiographie de son ours, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, c'est déconcertant à un moment qu'en fait c'est l'ours qui écrit son autobiographie, et dans l'autobiographie, il y a le personnage de la dompteuse qui écrit elle-même la biographie de son ours. Et c'est marqué à un moment, on s'en aperçoit à un moment où il y a elle met sa marque, elle imprime sa marque, il y a la patte de l'ours, voilà, à la fin du livre, et là on voit, on comprend clairement qu'il s'agit que l'ours est l'auteur. Et c'est dû au fait que, en fait, cette confusion qui est assez fascinante, parce que je crois que ça correspond aussi à une manière de dire que l'auteur, l'écrivain, il est capable de se fondre dans n'importe quel être, même un animal. C'est que dans le fameux baiser de la mort, c'est la scène où l'ours vient recueillir un sucre sur la langue de la dompteuse.
quoi pensent les ours quand ils pédalent sur leur tricycle? Pourquoi le font-ils?
Und dann bin ich nach Deutschland gegangen, nach Hamburg, und dort war das in also Zirkus Roncalli hat damit eine Werbung gemacht, dass sie keine Tiere missbrauchen, im Unterschied zu Sozialismus. Wir achten die Tiere und wir zwingen kein Tier und so weiter. Und das haben von der westlichen Seite wieder so ein Thema.
Et après, j'ai été à Hambourg et j'ai vu les publicités du Cirque Roncalli qui mettaient en avant le fait qu'eux ne maltraitaient pas les animaux, qu'ils n'étaient pas un cirque socialiste, mais qu'eux, ils respectaient les animaux et donc ils ne leur faisaient pas faire des choses contre leur gré.
Und Knut ist ein Symbol für Vereinigte Berlin.
Et Knut est un symbole de, du Berlin réunifié.
Das heißt, Knut wird nicht gezwungen, ein, wie ein Zirkustier zu tanzen, aber er macht eine Bühnenkunst und er macht schon etwas für das Publikum.
Donc lui, n'accomplit pas une danse d'une manière forcée, mais il est l'auteur d'une prestation artistique.
So wie die Künstler im Kapitalismus.
Comme les artistes dans le monde capitaliste.
Peut-être encore une chose avant de passer au temps de lecture. Dans la première partie, lorsque la grand-mère écrit, elle découvre aussi certains livres, et notamment les livres de Kafka. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de peut-être cet héritage littéraire dans lequel ce livre, même s'il est très singulier, s'inscrit?
Das ist natürlich für die Großmutter auch deshalb möglich geworden zum Schreiben, weil sie den Anschluss gekriegt hat zu der deutschen Literaturgeschichte. Und zwar diesen Teil der Geschichte, wo die Tiere Rolle spielen, bei Kafka, Heine und E.T.R. Hoffmann.
La grand-mère a eu accès à l'écriture parce qu'elle a eu accès à cet héritage de la littérature allemande en particulier et à ces histoires animalières qui figurent chez Kafka, Heine et E.T.R. Hoffmann, etc.
Bernard, un petit mot sur peut-être la place ou
たく湿って重い、そのまま倒れてしまいそうで、それは湿っぽいけれど一種の歓喜だった。夕方になってそういう気分が一気に煮詰まった。湿った風が私の肌をなめ、骨まで味わい尽くそうとするように肉を通り抜け、骨の髄まで届いた。
Die feuchte Luft hing so schwer am Himmel, dass ich nicht wusste, ob ich heulen oder laut lachen sollte. Ich bemerkte große Unruhe am Hals. Auch das Rückenmark fühlte sich merkwürdig kalt, durchnässt und schwer an. Ich dachte, ich könnte jetzt gleich in Ohnmacht fallen. Meine Stimmung war feucht-dunkel, dennoch mit Euphorie überzogen. Sie bedrückte mich schon den ganzen Tag, wurde nachmittags unerträglich dicht. Ein feuchter Wind leckte meine Haut ab, wollte das Fleisch und dann das Knochenmark kosten. Hinter der grauen Membran des Himmels leuchtete eine Fluoreszenzlampe. Das schwache Licht verwirrte uns alle, mich und die Gegenstände um mich. Der Zaun und die Felsspalte zeigten falsche Farben, als wüssten sie nicht mehr, ob sie gerade eine Morgen- oder Abenddämmerung erlebten. Ich blickte hoch.
Je regarde vers le haut. Quelque chose de plus sombre que l'air volait dans l'espace entre moi et le ciel. Un flocon de neige. Il neige. Encore un flocon. Il neige. Encore un autre. Il neige. Les flocons dansent partout. Il neige. Au début, la neige semble curieusement sombre alors qu'elle n'est que blancheur cristallisée. Il neige. Fabuleux ce mouvement de la couleur claire qui sur l'instant paraît sombre. Il neige, les flocons tombent en tournoyant. Il neige, encore un flocon. Il neige, et encore un. Il neige. Cela n'en finit pas. Je ne fais plus que regarder en l'air. Ces petits papiers blancs volaient à ma droite et à ma gauche comme des feuilles d'automne dans la tempête. La neige, elle, est un vaisseau spatial qui m'enlève. Et vole aussi vite qu'il peut en direction du crâne.
Es war der Schädel unserer Erde. La parole est à vous. Oui, alors je vais avoir besoin du micro pour interpréter, donc je vais faire. Oui, oui, bah alors, si tu veux bien, très bien.
Oui, ça tombe bien cette lecture merveilleuse parce que depuis les débuts, j'avais envie de poser la question à Madame Tawada. Quel est le lien que vous entretenez entre le japonais, l'allemand et vous-même ?
Eigentlich gibt es gar keine Verbindung zwischen Japanisch und Deutsch.
En fait, il n'y a pas de lien entre l'allemand et le japonais.
Aber für mich biografisch natürlich verbindet. Also jeder Mensch heutzutage hat aus biografischen Gründen wahrscheinlich mit zwei oder mit mehreren Sprachen zu tun. Und das kann man sich nicht aussuchen, meistens.
Bien sûr, pour des raisons biographiques, chaque personne aujourd'hui a affaire à deux ou trois langues, au moins par sa biographie. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'échappe pas.
Ich wollte, als ich nach Deutschland kam, wollte ich nicht unbedingt zu der deutschen Nation oder als Nationalstaat Deutschland kommen, sondern mich hat Europa interessiert. Also
quand je suis arrivé en Allemagne, je ne voulais pas nécessairement venir en Allemagne en tant que pays, en tant que nation.
Und
c'est l'Europe qui m'intéressait.
Und alle europäische Sprachen haben miteinander zu tun. Russisch mit Deutsch, Deutsch mit Französisch.
Et toutes les langues européennes ont à voir, sont cousines l'une de l'autre, le russe et l'allemand, l'allemand et le français.
Und so, aber man kann ja nicht alle Sprachen, alle europäische Sprachen lernen. Also, aber wenn man eine davon kann, dann hat man Verbindung mit anderen europäischen Sprachen.
Et on ne peut pas apprendre toutes les langues européennes, donc autant en apprendre une, ce qui donne une connexion vers les
Deutsch so weit auseinander sind.
Mais je trouve très intéressant que l'allemand et le japonais soient si éloignés l'un de l'autre.
Dann ist die Energie, die man einsetzt, um die eine persönliche Verbindung zu setzen, dann setzt man sehr viel Energie da rein und das wird sehr, also da kommt sehr viel raus da.
Ça réclame beaucoup d'énergie personnelle, d'investissement personnel pour établir une relation et c'est très fructueux, il en ressort beaucoup.
Und so habe ich sehr viele persönliche Verbindungen geschaffen zwischen zwei Sprachen für mich.
Et donc pour moi, j'ai établi beaucoup de relations personnelles entre deux langues.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres...
Opium für Obi, Schwagein, Bodo, das nackte Auge, Opodosmisa, ist japanisch übersetzt.
J'ai aussi écrit entre 20 et 25 livres en allemand, un peu des livres moins épais, mais parmi eux, il y en a trois que j'ai traduits vers le japonais.
Und diese drei Bücher sind auch ins Französische übersetzt.
Et ces trois livres ont aussi également été traduits vers le français.
Also, übersetzen ist die meisten Bücher übersetze ich nicht.
La plupart de mes livres, je ne les traduis pas.
はい、25冊ぐらい日本語で書いた本の中でこれだけです。ドイツ語に訳したの。はい。あと逆にドイツ語で訳した本の中